Bonjour mes frères et sœurs. Voilà ce moment arrivé où nous voulons ouvrir notre cœur pour que Dieu puisse nous parler. Alors j'aimerais faire plusieurs lectures avec vous. Je vous encourage à noter les lectures qu'on va faire, toutes, on va en faire une dizaine au fil de la prédication. Je vous encourage à les noter, non pas pour les noter, mais pour les reméditer. Vous savez que dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique, les animaux purs, vous savez qui c'était les animaux purs ? Les ruminants. Vous savez ce qu'elle fait la vache? Vous savez ce qu'elle fait la vache? Comment elle mange? Vous savez comment elle vache? Comment elle fait? Elle met dans la panse l'herbe, et puis quand elle a suffisamment mangé, elle le régurgite, elle le broie vraiment, et elle le rumine. C'est pour ça qu'on appelle les ruminants. Et puis elle le met vraiment dans l'estomac. Et il y a une image dans la parole de Dieu. Et je crois que c'est ce que je vais vous demander de faire, de prendre des textes, de les lire avec moi et de les ruminer chez vous. Dans Ésaïe au chapitre 48, ce qu'on va voir ce matin, c'est le béaba. Mardi, on a vu vraiment le béaba par rapport à un verset. Mais ce matin, on va voir le béaba par rapport à un état d'esprit. Ésaïe 48, verset 17. Ce sont des choses que vous avez entendues certainement maintes et maintes fois. Mais comme l'a dit l'apôtre Paul aux Philippiens, je ne me lasse pas de répéter ces choses car cela vous est salutaire. Ésaïe 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, je relis. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. L'ennemi essaie de nous faire croire que ce n'est pas possible. Mais si le Seigneur le dit, c'est la vérité. Jean chapitre 13, après avoir enseigné ce que nous devions faire les uns par rapport aux autres pour être de véritables disciples, à savoir nous bénir les uns les autres. Là, bien sûr, c'est par le lavage des pieds, mais nous devons nous faire du bien les uns les autres, vraiment du bien. Et lorsque Jésus parle, au Jean chapitre 13, verset 15, à verset 17, il dit ceci, « Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » On est tous égaux dans le Seigneur. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Mais il n'y a pas un point. Il y a une suite. Vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er, c'est une épître qui est très, 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 très pratique. Si vous voulez quelque chose de pratique, eh bien, lisez l'épître de Jacques. Chapitre 1er, au verset 22. On pourrait lire le verset 21, car il indique l'état d'esprit dans lequel on doit recevoir la parole. Notre frère Janson priait dans ce sens, mais c'est, vous savez, la façon de jeter la semence, un agriculteur qui sème. C'est important la façon dont il sème dans les sillons. Mais il n'y a pas que la façon, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas que la façon de semer. Il y a la façon de recevoir. Jacques, chapitre 1, verset 21, dit, c'est pourquoi rejeter toute souillure, tout débordement de méchanceté. Recevez, vous voyez la façon dont on écoute, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, c'est des chrétiens, ça s'adresse aux chrétiens, les païens, ils n'écoutent pas la parole. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, regardez bien, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. La parole est une parole qui provoque la liberté, qui produit la liberté et qui aura persévéré. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Mes frères et sœurs, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus lui-même dit que l'on peut être heureux. Oui, on peut être heureux, même dans l'épreuve. Heureux même dans les difficultés. Heureux du plaisir que nous procure l'obéissance à la parole de Dieu. Car c'est un drame, mes frères et sœurs. La quantité de chrétiens qui vit dans l'illusion, c'est un drame. Et les gens s'imaginent, parce qu'ils écoutent même peut-être avec plaisir, qu'ils obéissent. Et vous savez que l'église de la fin des temps est caractérisée par les chrétiens de Laodicée. Et à cette église, où ils ont réussi à mettre Jésus dehors, il faut le faire, c'est vite fait, Jésus va leur dire, tu crois que tu es riche. Et tu ne sais pas que tu es pauvre, etc. Ça s'appelle l'illusion. Je me souviens, il y a 15 ans en arrière, un des frères ici qui était pasteur, ancien monsieur Chrétien, avait prêché sur l'évangile de l'illusion, avec ce verset et d'autres. Mais ça m'avait beaucoup interpellé, parce que c'est ce qui se passe dans beaucoup d'églises et dans beaucoup de chrétiens, l'illusion. Et mes frères et sœurs, la parole de Dieu, ce n'est pas le fait de l'écouter pour voir si elle est biblique. Il y a des gens, ils se comparent aux chrétiens de Béret, vous savez, dans les Actes, qui regardaient scrupuleusement, qui examinaient si ce que l'apôtre Paul disait était conforme aux écrits de l'Ancien Testament. Alors ils passaient, bien sûr, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de dire, monsieur Gaud, dans votre prédication, je me souviens, une fois, j'avais prêché sur les prophéties de la fin par rapport à Israël. Et il y a un gars qui est arrivé à la fin, il me dit, monsieur Gaud, vous avez fait une erreur. Mais c'était bien. Il me dit, ça ne concerne pas Israël, ça concerne la Cisjordanie. Et j'ai regardé, il avait raison. Une parole. Bon, il a bien fait, c'est un gars qui s'était converti, mais lui, il était scrupuleux par rapport aux prophéties d'Israël, mais c'était bien. Mais mes frères et sœurs, nous venons de chanter, Seigneur, parle-moi, la trompette d'argent. Est-ce que nous mettons en pratique la parole de Dieu? Alors on va lire encore un autre texte, c'est la conclusion du sermon sur la montagne. C'est un beau sermon, c'est ce sermon qui a déclenché la bénédiction dans le cœur de plein de gens. Matthieu 7, versets 24 à 27. Mais mes frères et sœurs, c'est archi sérieux. C'est peut-être le béaba, mais vous et moi, nous devons nous poser la question, mais est-ce que j'écoute la parole ou est-ce que je l'écoute et je la mets en pratique? Parce que laissez-moi vous dire que je constate très souvent que des chrétiens ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Et c'est un drame. C'est un drame. Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi, donc, après tout ce sermon merveilleux, le Seigneur conclut en disant, quiconque, en plus, juste avant, ça va loin, hein, parce qu'il parle des pasteurs qui prophétisent, qui chassent des démons, qui guérissent, enfin, qui font des choses merveilleuses, et Jésus leur dira, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Alors ça peut paraître étonnant parce que Dieu honore sa parole. Le Seigneur honore sa parole. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez ce texte? Dieu honore sa parole. Je vis dans le mensonge. Je vous donne un exemple. Je mens. Tous les 2, 3, 4 jours, je mens. Une dame m'appelle, son enfant est malade. Cet enfant est malade, cette femme, elle croit que Jésus peut la sauver. Je vais prier de tout mon cœur au nom de Jésus-Christ. Dieu va honorer la foi de cette femme. La prière faite au nom de Jésus, l'enfant va être guéri. Dieu a-t-il honoré Gérard Gaud ou Dieu a-t-il honoré le nom du Seigneur? Eh bien, Dieu a honoré son nom. Et c'est ce qui va se passer pour beaucoup de pasteurs qui s'imaginent que parce que Dieu les bénit, ils sont en communion avec Dieu. Jésus leur dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Et il termine en disant, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, il les entend, et ne les met pas en pratique, il sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et le sermon sur la montagne termine avec cette parole terrible, sa ruine a été grande. Parce que c'est une ruine lorsqu'on va en enfer. Qu'une maison s'effondre, ce n'est pas grave. Mais mes frères et sœurs, qu'un homme aille en enfer, c'est une véritable ruine. Il a écouté, mais il n'a pas mis en pratique. Et moi, je vous avoue que mon cœur est brisé bien souvent quand je vois ce que je vois. Alors, c'est vrai que nous aimons, bien sûr, que moi, ce matin, j'aurais aimé, sincèrement, j'aurais aimé vous faire une étude sur l'Apocalypse. Mais vraiment, j'aurais aimé. Parce que c'est un livre que je médite depuis des mois et je crois vraiment que le Seigneur m'a donné des choses pour partager avec l'Église. Des choses vraiment merveilleuses. Mais à quoi ça servirait de partager des choses très intéressantes si je n'obéis pas à la parole de Dieu? Alors il y a des choses qui sont secondaires, mais quand même qui plaisent à Dieu. Regardez avec moi dans Romains au chapitre 14. On va parler de deux ou trois choses secondaires, mais quand même importantes. Dans Romains au chapitre 14, il nous est demandé de faire certaines choses. Ça concerne l'accueil, par exemple, et les opinions. L'accueil et les opinions. Après, on pourrait voir également la politesse, les prévenances réciproques. Est-ce que c'est important, ça? C'est important ou c'est pas important? Donc, Romains chapitre 14. On va voir des choses secondaires, mais elles sont importantes. Pourquoi elles sont importantes? Eh bien, parce que c'est quand même écrit, regardez. Alors, où c'est écrit? Verset 18. Romains 14, verset 18. Celui qui sert Christ de cette manière... Alors, qu'est-ce qu'il est? Vous ne m'aidez pas beaucoup, hein? Il est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Donc, il y a des choses qui plaisent à Dieu et qui font que même entre nous, ça met une approbation. C'est important qu'il y ait cette approbation entre nous. Une bénédiction, j'allais dire humaine. Oui, la bénédiction de Dieu qui bénit l'humain. Parce que les gens, ils confondent des fois l'humain et le charnel. Il ne faut pas avoir honte d'être un être humain. C'est normal d'être humain. Mais les gens confondent l'humain et le charnel, ça aussi c'est dommage. Mais regardez au début, accueillez celui qui est faible dans la foi. Ne discutez pas les opinions. Accueillir, l'accueil. Est-ce que c'est important l'accueil? Comment nous nous accueillons les uns les autres? Dans une église, comment nous accueillons les nouveaux? Comment nous accueillons les pécheurs? Comment nous accueillons les fils prodigues? Ah, hein, tu reviens? Ah, t'avais des problèmes. Maintenant, attends. Moi j'ai vu ça. Moi j'ai vu un frère, un ancien, c'était pas ici. Un ancien qui a dit à une rétrograde, mais qui revenait vraiment de tout son cœur. Ah, je croyais que t'étais morte. Ah, ça lui a fait du bien. Hein. Elle n'y a pas mâché les mots en plus. Mais que c'était triste. Je me mettais à la place d'un pécheur qui arriverait, qui voit ça. Quand même, mes frères et sœurs. On doit toujours se réjouir quand un rétrograde revient. Toujours se réjouir. Ce n'est pas une victoire, c'est une double victoire. Et l'accueil, ça devrait vraiment faire partie du cœur du chrétien. Dans toutes les réunions, aux réunions de jeunesse, aux réunions de semaine, qu'on soit nombreux, qu'on ne soit pas nombreux, de savoir, d'accueillir celui qui s'assoit à côté de nous. Peut-être il vient pour la première fois. Vous connaissez celui qui est à côté de vous? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous lui avez dit bonjour quand il est arrivé? Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Est-ce que c'est important? Il y a des gens qui ne disent pas bonjour. Notre frère me disait la semaine dernière qu'il a été dans une église où le pasteur a prêché pendant deux dimanches sur l'accueil. Ils étaient de passage. Personne ne leur a dit bonjour. Ni au départ, ni à l'arrivée. Personne ne leur a dit bonjour. Et le pasteur s'est évertué à expliquer qu'il fallait s'accueillir. Alors vous allez me dire, mais monsieur Gauss, c'est pas grave, l'accueil, vous en cassez pas la tête. Ça n'a rien à voir avec le salut. C'est vrai, c'est pas parce que j'accueille pas mon frère que je vais aller en enfer. C'est évident. Mais mes frères et sœurs, ça commence par des choses simples. Et c'est révélateur. Les opinions. Mes frères et sœurs. Ne discutez pas les opinions. Alors il y a toute une série de... Mais là, moi je crois que Dieu a permis certaines choses pour nous montrer si nous nous aimions. Parce qu'il y a des choses, elles ne sont pas claires. Hein. Elles ne sont pas évidentes. Je prends un exemple. Ça m'est venu à l'esprit ce matin en priant. Quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Donc, ça veut dire que je dois prier dans ma chambre. Et pas ailleurs. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont excessifs comme ça. Jésus a dit, il faut prier dans la chambre. Eh bien, tu pries dans la chambre. Dans la salle à manger? Non. Dans le salon? Non. Dans la cuisine? Non. Dans la cabane au fond du jardin? Non. Dans la chambre? Alors vous riez, bien sûr, je le fais exprès. Mais mes frères et sœurs, il y a des gens qui en sont là, par rapport à tous les sujets, par rapport à la Sainte-Seine, par rapport au jour, etc., etc., etc. J'ai écouté une prédication dimanche dernier, dimanche soir, sur un prédicateur qui expliquait que ceux qui ne respectaient pas le sabbat étaient tous dans le péché, que le culte, il fallait le célébrer le samedi. Alors le culte, est-ce qu'il faut le célébrer le samedi, puisque dans l'Ancien Testament, c'était le sabbat? Je vais vous dire, le culte, il y a des pays, ils font le jeudi parce que c'est le jeudi, le jour de férié. Dans les pays islamistes, ils le font le vendredi, le culte, parce que c'est le vendredi, le jour férié, etc., etc. Le problème, c'est pas qu'on fasse le culte le jeudi, le vendredi, le samedi ou le dimanche. Le problème, c'est qu'on obéisse à Dieu tous les jours de la semaine. C'est ça le problème. Que vous priez dans la chambre, dans la voiture, sous la couette. Bien sûr qu'il y a des moments où on privilégie. Moi, j'aime prier à genoux à la maison. J'aime. Mais je veux dire, c'est pas ça qui va faire que je vais être exaucé. Je serai exaucé parce que je vais obéir au Seigneur. Alors ce sont des choses qui sont secondaires, l'accueil, les opinions. Mais les opinions, c'est quand même révélateur de notre état d'esprit. Est-ce que je continue à aimer mon frère, même si lui, il pense autrement? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est pour ça que Dieu dit, mais celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et aux hommes. On continue parce qu'on n'a pas le temps de tout voir, mais les prévenances réciproques, c'est dans chapitre 12, oui, c'est dans le chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Bon, on peut être plein d'affection que si on est rempli du Seigneur, c'est clair. Bon, les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenances réciproque. Tiens donc, la politesse. La politesse. Est-ce que c'est normal d'être poli? Moi, vous savez, je suis super étonné. Nous, ça nous est arrivé, vous, mon épouse, de recevoir du monde à la maison, des enfants, des ados, des jeunes. Bien sûr, vous savez comment on fait quand on reçoit des jeunes, on fait à manger, on fait tout, et tatati, et tatata. Ça ne parle pas des derniers jeunes. Les derniers jeunes qui sont venus ont été polis. Parce que je sais qu'il y en a qui sont venus et les parents doivent être là. Mais c'est vrai, ils ont été polis et reconnaissants. Mais il y a des gens, ils viennent, ils laissent tout en vrac, ils ne refont même pas le lit, même pas merci. Moi, je trouve, quand vous allez me dire, ils sont jeunes, ils ne sont peut-être pas encore convertis, mais fait la politesse, il n'y a pas besoin d'être converti pour être poli. Est-ce qu'il faut être converti pour être poli? Est-ce que vous ne l'étiez pas avant votre conversion, la poli? Il y a des gens qui ne disent jamais merci. Mes frères et sœurs, bien sûr que ce n'est pas parce que vous oubliez de dire merci que vous allez aller en enfer. Ça n'a rien à voir avec le salut. Mais la Bible en parle. Par honneur, usez de prévenances réciproques. On se salue. Quand on voit dans des églises des chrétiens qui ne se saluent pas, laissez-moi vous dire qu'on doit ressembler étrangement à l'église de Laodicée, où on a réussi, comme je le disais tout à l'heure, à mettre le Seigneur dehors. Quel drame! Et je pense vraiment qu'on ne peut pas l'attribuer à des églises. On dit, à quoi que ça peut arriver, là, j'espère que non. Mais après, c'est à chacun de savoir s'il a Jésus dans son cœur. Si Jésus agit dans sa vie, si le Seigneur Jésus vraiment opère quelque chose. On le sent quand l'Esprit de Dieu est là, on a besoin d'être reconnaissant. Vous n'avez pas besoin de dire merci. On vient de louer le Seigneur, vous l'avez fait à mi-voix. Bon, certains l'ont fait à haute voix, bon, ça veut rien dire. Est-ce que parce que quelqu'un le ferait à haute voix, il ne serait pas plus spirituel que celui qui ne le fait pas à haute voix? Comment non? Celui qui prie à haute voix doit être plus spirituel, non? Ben non, vous comprenez. Mais on l'a entendu ça. Et il m'a fallu mettre de l'ordre. Ici, je l'ai entendu. Un des anciens l'avait dit, il m'a fallu vraiment le reprendre. Ce n'est pas parce que quelqu'un prie à haute voix qu'il est spirituel. Plus que celui qui ne prie pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est des opinions. Et ça, c'est des idées. Dieu regarde au cœur. Mais il y a des choses qui doivent être faites. Elles doivent être faites. Vous savez, je vais vous donner un témoignage. J'en ai parlé un petit peu, je crois, dimanche dernier. Parce qu'ils m'ont appelé hier de la Martinique. C'est un couple, un gars qui est venu ici, il y a combien, un an, hein, Cédric. À la fin de la réunion, mardi soir, il me dit, Monsieur Go, il faut prier pour que... Écoutez bien. Vous comprendrez le sens de ma prédication. Parce qu'il y a des gens qui sont simples. Simple dans le sens le plus correct du mot. Il me dit, il faut prier pour ma conversion. Ah, j'ai dit non. Il m'a regardé. Non, je ne prierai pas pour que vous vous convertissiez. Je vais vous dire quelque chose. Convertissez-vous. Alors, il m'a regardé. Mais quand vous voulez. Mais la Bible ne dit pas qu'il faut prier pour que les gens... Attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La Bible dit, convertissez-vous. C'est écrit comme ça dans votre Bible. Convertissez-vous. Repentez-vous. Et le gars, il me dit, est-ce que je peux le faire maintenant? Mais je dis oui. On a été à côté. Le gars, il s'est mis à pleurer. Il a donné son cœur au Seigneur. Il a pleuré. Il a dit, il a regardé sa fiancée. Il a dit, on va mettre notre vie en règle. On va obéir au Seigneur. Et c'est ce qu'ils ont fait. Dans la foulée, ils ont pris rendez-vous chez le maire. Ils ont mis leur vie en règle. Tu te rappelles, hein? Ils l'ont mis en vie en règle. Là, ils sont partis aux Antilles faire un repas parce qu'ils ont obéi au Seigneur. Mais le gars, il m'a dit, mais j'ai compris. Et nous, on est là, on attend, on est dans le sentiment. Quand le Seigneur dit, mettez en pratique, voilà, je peux accueillir. Bon, je suis peut-être un peu plus timide que les autres, oui ou non. Mais est-ce que je peux pas, est-ce que même si je suis timide à rougir, dès que je parle avec quelqu'un, est-ce que je peux pas quand même serrer la main à quelqu'un ou faire le poutou à quelqu'un et lui dire que Dieu vous bénisse. Vous arrivez dans l'église, eh bien que Dieu vous bénisse. Est-ce que, même si on est timide, est-ce qu'on peut le faire ça? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que vous le faites? Si vous ne le faites pas, c'est pas bien. On ne va pas vous juger, vous inquiétez pas. Mais c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Nous, on est là souvent avec nos super sermons, il faut que ce soit transcendant. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. Le Seigneur, il est formel. Celui qui entend ses paroles et qui ne les met pas en pratique, il bâtit sa maison sur le sable. Et c'est vrai que ce que je viens de voir, l'accueil, la politesse, les prévenances réciproques, le respect des opinions, on pourrait continuer. Ce n'est pas vital, mais c'est quand même révélateur de ce que je suis soucieux des choses spirituelles. C'est pour ça que je suis revenu sur ma lecture et que j'ai dit, on va lire le verset qui précède. Recevez avec douceur. Comment je reçois la parole de Dieu ? Est-ce que vous avez le culot de vous réfugier derrière votre timidité? Mais moi, je suis timide. C'est comme un gars qui est venu me voir. Il y a un gars qui est venu me voir il n'y a pas longtemps. Il va être pasteur. Ça arrive souvent que des gens qui veulent être pasteurs viennent me voir. Ça arrive très, très, très souvent. Il vient me voir. Il me dit, voilà, monsieur Gros, je vais vous parler. On était à côté. Il me dit, voilà, je souris parce que, en vérité, ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Puis on discutait, puis on parlait. Je lui posais des questions par rapport à sa repentance, par rapport à sa conversion, par rapport à sa nouvelle naissance. Et vous voyez? Ça, j'aurais jamais cru qu'il me faudrait le faire par rapport à quelqu'un qui veut rentrer dans le ministère. J'aurais jamais cru. Et vous rendez compte, je suis arrivé à un stade où je sais que je dois vérifier la conversion de quelqu'un qui veut être pasteur. Et puis à un moment, je lui dis, voilà, qu'en est-il vous avez compris certainement au fur et à mesure que vous lisiez la Bible qu'il y a certaines choses qu'il ne fallait pas faire. Il me dit, oui. Et les paroles grossières? Je ne sais pas, j'ai été poussé. Ah, moi, vous savez, je suis d'une famille de tel pays, on a un caractère trempé, et de temps en temps, il m'en échappe un. Mais je dis, mais ce n'est pas le caractère, c'est la désobéissance. Alors sa femme dit, tu vois. Et je dis, oui, c'est quand même dommage que vous justifiez des paroles grossières à cause d'un caractère. Vous rendez compte, cette malhonnêteté. C'est malhonnête. C'est inconscient ou inconsciemment, moi je suis pas capable de le dire. Mais c'est malhonnête. Quand on entend la vérité, on doit la mettre en pratique. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont malheureux. Le Seigneur, il est catégorique. Et il le dit avec soupir. Oh, ces soupirs dans la Bible, ça indique quelque chose. Quand vous dites à votre femme, oh, je t'aime. C'est pas pareil que si vous lui dites « je t'aime ». Vous voyez ? Quand Dieu exprime un soupir, ça indique quelque chose de profond. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. » Et voilà pourquoi tant de chrétiens sont malheureux. Ils sont d'accord. Oui, je sais que toute la Bible est inspirée du premier chapitre, du premier verset, au dernier chapitre 22 de l'Apocalypse. Tout est inspiré, oui. Mais Dieu ne te demande pas si tu sais ça. Le Seigneur nous demande si nous nous appliquons à mettre en pratique. Et quand on commence à justifier sa désobéissance, laissez-moi vous dire qu'on n'est pas sur une bonne voie. Alors ces choses-là que je viens d'aborder, n'importe qui pourrait se lever et dire « Ouais, ben, monsieur Gault, tout ça, c'est pas grave. » C'est vrai. Et en plus, c'est vrai. C'est dommage, parce que ça prouve que notre communion avec Dieu quand même est limitée. Mais après, il y a des choses qui sont vitales. Alors on va en voir quelques-unes. Le mensonge. Moi, je suis bouleversé de voir qu'il y a des chrétiens qui mentent. Moi, ça, je... Alors, attention. Moi, ça, je vous l'ai déjà dit, ça m'est arrivé de mentir 4 ou 5 fois. Mais je peux vous dire que les 4 ou 5 fois, j'ai été voir le lendemain ou 2 jours après la personne pour lui dire, écoute, je te demande pardon. Je ne sais pas pourquoi, c'est bête, c'est l'orgueil, je ne sais rien, je t'ai menti. Mais quand je vois aujourd'hui la quantité de chrétiens qui acceptent le mensonge comme étant normal, alors on va quand même lire 2 ou 3 textes, s'il vous plaît. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, Jésus a une grande discussion avec les pharisiens. Alors au début, ça commence très bien. Ça commence très bien parce que Jésus, mais il parle surtout des autres. Jean chapitre 8, d'ailleurs ça se passe bien, regardez, voyez. Jean chapitre 8, c'est pour vous donner un petit peu l'atmosphère de ce moment. Jean chapitre 8, verset 30. Vous voyez, c'était bien, comme toujours quand Jésus parlait, enfin pour ceux qui aiment la vérité. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Alors on sent que le braquet change. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Plus loin, verset 41, « Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. » C'est des religieux, c'est des pasteurs à l'époque. C'est des pasteurs, c'est des pharisiens, chargés d'enseigner la parole, comme moi ce matin. « Nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous donc pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père, tenez-vous bien, s'il y a un menteur dans la salle, écoutez bien. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. » Donc vous avez une petite idée de ce qui est notre père lorsque nous vivons dans le mensonge. Vous pouvez me dire, ouais, mais il ne faut pas exagérer non plus. Le Seigneur, l'apôtre Jean, il a dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, qui est fidèle pour nous pardonner, etc., etc. Donc, je mens, le lendemain, je demande pardon. Écoutez-moi, mes frères et sœurs, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le péché doit être très occasionnel. Et on le voit bien dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse termine avec des reproches, des avertissements, des promesses, des conseils, etc., bien sûr. Et à trois reprises, Jésus parle du mensonge. C'est Jésus qui parle. C'est pas l'apôtre Jean, c'est Jésus. Apocalypse 21, verset 4. Apocalypse 21, verset 7. Apocalypse 21, verset 7e. On voit toujours cette expression qui fait du bien. Ça fait du bien parce que je crois qu'il y aura quand même des vainqueurs dans toutes les églises parce qu'ils obéiront. Apocalypse 21, verset 7. Celui qui vaincra, dont il y a des vainqueurs, il y en a partout des vainqueurs, héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais, pour les lâches, vous voyez les lâches, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, les gens qui n'arrivent. C'est quoi un lâche? C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. Oui, je veux me convertir, mais j'attends d'être à la retraite. J'attends de si, oh, j'ai besoin. Non, c'est ça la lâcheté, c'est que je n'arrive pas à me décider. Bon, les incrédules, vous savez ce que c'est. Les abominables, vous savez, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs. Je vous ferai remarquer que Jésus met les menteurs au rang des magiciens et des idolâtres et des débauchés. Ça craint quand même. Mais pourquoi? Eh bien parce que le père du mensonge, eh bien c'est le diable. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort. Si vous ne faites pas bien l'accueil, vous n'irez pas en enfer. Si vous discutez les opinions, ça montre votre côté enfantin. Enfant. Si vous n'êtes pas prévenant, etc., ça montre qu'il manque quelque chose. Mais vous n'irez pas en enfer pour ça. Mais si nous vivons dans le mensonge, nous irons en enfer. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse, toujours le même chapitre, verset 27, par rapport à la Nouvelle Jérusalem. Dieu continue, c'est Jésus qui parle, ce n'est pas signé Gérard Gaud, c'est signé Jésus-Christ. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Vous avez vu ? Est-ce que c'est clair ? Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est pour ça qu'il faut se repentir et se convertir pour être sauvé. Chapitre 22, verset 14. Chapitre 22, c'est pour ainsi dire la dernière prédication. Heureux ceux qui lavent leur robe. Vous voyez, c'est pour ça que ce matin, c'est une occasion de laver sa robe. Et Seigneur, je veux me purifier, que ton sang me purifie. Cette sainte scène, je veux que ça soit une victoire. Je veux vivre dans la vérité. Je veux vivre dans la vérité. C'est un choix. Ne te pas, mais moi, je suis fragile. Non, c'est pas. Dieu n'a pas dit pour les fragiles, ça ne sera pas facile. Pour les gens qui sont tempêtes forts, ça sera beaucoup plus facile. On est tous pareils. On peut tous obéir. Et là, bon, y a bien sûr heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux êtes-vous si ce matin vous dites, bon, mais tu me parles, Seigneur, je veux en prendre considération. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. D'ailleurs, le texte où Jésus dit « Vous êtes heureux », il parle de se laver les pieds les uns aux autres. Pourquoi ? Parce que notre marche, elle est faite qu'on se salit. Est-ce qu'on se salit un peu tous les jours, plus ou moins ? Mais c'est une chose de se salir les pieds, et ça n'est une autre que d'être complètement souillé. Vous voyez ce que je veux dire ? Dehors, les chiens. Alors, les chiens, c'est quoi ? C'est quoi, les chiens ? Il y a une sœur qui s'était convertie il n'y a pas longtemps, et qui me dit, Monsieur Roux, j'ai lu Apocalypse, est-ce qu'il faut que je me débarrasse de mon chien ? Elle croyait qu'il ne fallait pas qu'on ait chien. J'ai dit, non, les chiens, ce sont ceux qui retournent à ceux qui ont vomi. Ce sont les rétrogrades. Il y a des gens qui disent, mais non, on ne peut pas perdre le salut. Écoutez-moi, soyons sérieux. Soyons sérieux. Vraiment, frère, beaucoup de gens seront dehors pour ça. Parce qu'il y a des gens qui l'affirment haut et fort dans le mouvement évangélique, qu'on ne peut pas perdre le salut. Moi, j'aimerais bien. Je peux vous dire qu'on peut perdre le salut. Croyez-moi, c'est certainement le sujet doctrinal qui est le plus développé dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque, alors regardez bien, il y a une précision là, quiconque aime et pratique le mensonge. Il y a la différence. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont utiliser ce que je vais dire pour justifier le péché, mais après tout, c'est leur problème. Je fais quand même la différence entre quelqu'un qui commet un mensonge, et qui le répare. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que ça peut arriver ? Mais il va le réparer. Il ne supportera pas de ne pas le réparer. Et il y a une différence avec l'autre qui aime et qui pratique le mensonge. C'est-à-dire que c'est une façon de vivre. Et celui qui vit dans le mensonge. Si vous vivez... Écoutez, moi je vous le dis peut-être pas très bien, je ne suis pas doué pour ça. Mais si vous vivez dans le mensonge, votre père, ce n'est pas Jésus. Votre père, c'est le diable. Si vous avez besoin d'explications, je vous les donnerai tout à l'heure. Mais mes frères et sœurs, de grâce, ne vous imaginez pas que vous allez aller au ciel si vous vivez dans le mensonge. Si vous avez commis un mensonge et que vous alliez demander pardon, moi je fais la différence, je le répète, entre un péché ponctuel et un état d'esprit. Moi, je vous dis, ça m'est arrivé. Je vous l'ai dit il y a 2-3 mois, j'ai menti 5 ou 6 fois à ma femme. Des broutilles, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Mais mes frères et sœurs, c'est un sujet sérieux. Je vous assure, j'en étais malade. C'était rien en plus, c'était des trucs bêtes. Mais je ne pouvais pas vivre sans lui demander pardon. Et en plus, je n'aurais pas pu monter sur l'estrade, ce n'est pas possible. Si vous vivez dans le mensonge, votre père, c'est le diable. Ça, c'est du non négociable. C'est révélateur. Et moi, je vois des chrétiens, mais moi, je vous assure, ça me brise le cœur. Dernièrement, il y a une chrétienne d'ici qui nous dit, oh, moi, si je mens, c'est pas grave. Je lui dis, mais c'est pas possible. Si je mens, c'est pas grave. Vous pensez pareil ? On veut être prêt, heureux ceux qui lavent leur robe. Et il faut que ce moment de Sainte Cène soit un moment de victoire. On prie pour le réveil, mais moi je vous dis, moi, il y a longtemps que je ne prie plus pour le réveil. Je prie pour que les chrétiens obéissent à Dieu. Le pardon, ça aussi, c'est un sujet non négociable. Il y a des chrétiens qui se font la tête. Il y a des chrétiens qui ne se parlent plus. Alors, je ne dis pas qu'il faut être en affinité avec tout le monde. Est-ce qu'on peut être en affinité avec tout le monde? Mais non. Mais s'il y a une différence entre ne pas être très en affinité avec quelqu'un et puis avoir du ressentiment contre lui. Il faut pardonner. C'est non négociable. Si vous ne pardonnez pas, qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur Jésus? C'est pas grave. C'est ça qu'il a dit, non? Non. Si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. C'est dans le sermon sur la montagne. C'est l'enseignement sur la doctrine, la saine doctrine. Si vous ne pardonnez pas vos offenses, le Seigneur ne vous pardonnera pas non plus. Pierre, lui, un peu plus loin, qui pensait être dans le coup, parce que vous savez que les scribes et les pharisiens avaient des lois, des interdictions, des commandements, et il y avait une loi qui disait que si un gars t'avait saoulé pendant 7 fois, bon, la 7e fois, ça suffisait. Donc on pouvait pardonner quelqu'un 7 fois. Et Jésus va vers Pierre, il va vers Jésus, il lui dit, mais Pierre, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il aura péché contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Tu veux un chiffre? Tu veux un chiffre, Pierre, je vais t'en donner un. Ça ne sera pas 7 fois, ça sera 77 fois, 7 fois. Ça veut dire 490 fois par jour. Pardonner le même bonhomme. Si vous avez compris, ça veut dire que le pardon doit être continuel. C'est un état d'esprit, le pardon. Voyez l'accueil, les opinions, tout ça. Moi, quand je vois deux chrétiens qui se chamaillent parce que le dimanche, c'est supérieur aux autres jours de la semaine et vice-versa, je vous dis, c'est révélateur de manque de maturité. Mais là, on n'est pas dans le révélateur de manque de maturité. Là, on est dans le vital. Et c'est un choix. Je dois pardonner. Je pardonne. Si Dieu demande de pardonner, ça veut dire qu'on peut tous pardonner. Oui ou non? On peut tous pardonner. C'est pas, moi je peux, toi tu peux pas. Bon, il y a des gens, moi je peux pas pardonner. Non, vous ne voulez pas pardonner. Si le Seigneur nous demande quelque chose, c'est réglé d'office. Tout ce que Dieu nous demande, on peut le faire. Vous le croyez que Dieu va nous demander quelque chose qu'on ne peut pas faire? Vous vous voyez en train de passer devant Dieu un jour et de lui dire, tu sais Seigneur, je n'ai pas pardonné, hein? Je ne pouvais pas. Vous croyez que Dieu va vous dire, ah ben ouais, je comprends, tu ne pouvais pas, toi c'est normal. Vous croyez que c'est ça que Dieu va vous dire? Le Seigneur vous dira, tu ne voulais pas. Et je crois, mes frères et sœurs, qu'on doit vraiment être sérieux. Moi, vous savez, ça me fait presque de la peine, tout en comprenant que c'est la volonté de Dieu aussi d'aborder le béaba de l'Église. Vous savez, quand je me suis converti, j'ai entendu un pasteur, ça m'avait fait quelque chose parce que je savais que c'était vrai. Un pasteur qui a dit, il faut évangéliser les catholiques. Ils ont besoin tous de connaître le salut par grâce, le sang de Jésus-Christ. Et je savais que c'était vrai. Mais vous savez ce que je pense aujourd'hui? Vous avez compris? Qu'il faut évangéliser les évangéliques. Oui ou non? Pas tous. Mais je pense que personne ne prendrait de travers le fait que pendant 3 ou 4 dimanches, je fasse de l'évangélisation, sachant que ça correspondrait bien aux besoins de quelques chrétiens qui vivent justement dans cette insouciance. C'est vrai que c'est qui a demandé tout à l'heure, monsieur de Dieu, je crois dans la prière, mais Seigneur, qu'il y ait des convictions de péché. Mais voilà, c'est ça qu'on a besoin. Mais si notre cœur n'est pas ouvert, il n'y aura pas de conviction de péché. Pourquoi il n'y a pas de conviction de péché? Parce que le Saint-Esprit a changé, qu'il est en colère? Non, c'est parce que le cœur n'est pas ouvert. Parce que moi, laissez-moi vous dire que si vous vivez dans le mensonge et un tant soit peu, vous auriez ouvert votre cœur, vous allez devoir vous positionner. Vous allez devoir choisir. Quand je vous disais que la semaine dernière en Islande, ils ont choisi une loi pour dépénaliser le blasphème, les gens y choisissent. Et c'est écrit, et c'est ce que Dieu demande. Que celui qui est saint se sanctifie, que celui qui se souille, se souille. C'est quelque chose que Dieu demande. Et c'est quelque chose qui se fait sans que les gens peut-être ne s'en rendent compte. Les gens qui disent « je suis Charlie », les gens qui disent « voilà, c'est normal, on peut tout dire au nom de la liberté ». Eh bien écoutez, moi, c'est pas vrai. On ne peut pas tout dire au nom de la liberté d'expression. C'est pas vrai, c'est pas biblique en tous les cas. Mes frères et sœurs, il y a des choses qui sont non négociables. Si vous vivez dans le mensonge, prenez là, c'est pour ça que j'ai voulu prendre la Sainte Cène avant. Vous avez remarqué que ça fait plusieurs dimanches que je tiens, parce que je pense que c'est bien, de prendre la Sainte Cène après la prédication. Parce que c'est une occasion justement de laver sa robe et de dire, il faut que je prenne la victoire ce matin. Dites pas demain. Parce qu'aujourd'hui, écoutez-moi bien, vous connaissez cette parole de l'Écriture. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, il n'est pas dit ne reporte pas au lendemain. Ce n'est pas ça qui est dit. Ça ne serait pas trop grave, ça. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ça veut dire que si j'ajourne à dimanche prochain l'obéissance, en vérité, j'ai fait une chose que je ne vois pas, c'est que j'ai endurci mon cœur. Est-ce que vous comprenez? Et je m'adresse à ceux qui sont légers avec Dieu. Si vous, Dieu vous parle ce matin et que vous disiez, bon, j'attendrai demain, on verra. Eh bien, écoutez-moi bien, demain, votre cœur, il sera un petit peu plus dur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Ce n'est pas moi qui ai créé le cœur de l'homme, c'est Dieu qui l'a créé. Et il sait très bien que quand on n'ajourne pas en vérité, on s'endurcit. Le mensonge, le pardon, l'amour. L'amour. Rechercher l'amour. On pourrait y passer la journée là, à parler de l'amour. Est-ce qu'on peut tous aimer son prochain? Est-ce qu'on peut aimer? Seigneur, je veux aimer. Je veux même aimer mes ennemis. Je veux les aimer. Ça ne veut pas dire que je veux leur sauter au cou. Amenez-moi-les, je veux les serrer dans mes bras. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais quand vous dites, Seigneur, je te prie pour monsieur un tel, tu sais le mal qu'il m'a fait, mais moi je le bénis. C'est ça, aimer ses ennemis. Je le bénis, Seigneur. Ça veut dire, je veux du bien. En plus, c'est une loi. Quand vous bénissez, Dieu a dit que celui qui bénissait, il hériterait la bénédiction. C'est écrit ou c'est écrit? Un stagiaire, il devait tout savoir. On va le lire. C'est des versets qu'on devrait... Un Pierre, je te pardonne, mais tu ne seras pas reconnu cette année. Un Pierre, chapitre 3. Tu comprends bien que moi, quand j'étais stagiaire, je connaissais tout. Un Pierre, chapitre 3, verset 9. Ce sont des versets clés, mes frères et sœurs. Ce sont des versets qu'on devrait connaître. En tous les cas, si on ne connaît pas la référence par cœur, il faut les connaître dans son âme. C'est quelque chose de vital. Vous voulez être bénis, mes frères et sœurs? Il y a quelqu'un ici qui... Est-ce que c'est sain de vouloir être béni? Est-ce que Dieu veut bénir? Oui, bon, vous pouvez vouloir la bénédiction. 1 Pierre 3, verset 9. Ne rendez pas le mal pour le mal, ou l'injure pour l'injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Vous vous rappelez? Ah, si tu étais attentif. Afin d'hériter la bénédiction. Mes frères et sœurs, c'est un principe. Jésus, il nous a donné l'exemple. C'est écrit juste avant. Regardez, il faut aller au verset 20. Du chapitre 2. Regardez bien, s'il vous plaît. Parce que c'est le béaba. Mais c'est comme ça qu'un homme est béni. C'est comme ça qu'une église est bénie. C'est comme ça que le Saint-Esprit agit dans les cœurs. C'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de souffrir injustement? Parce que vous étiez, moi ça m'est arrivé, je crois que c'était ici, une jeune fille à qui on n'a pas donné le poste de responsabilité parce qu'elle a refusé de coucher avec son chef de service, donc ils l'ont donné à l'autre qui avait accepté. Mais comme elle était chrétienne, elle avait refusé. Est-ce que ce n'est pas une souffrance injuste? Si. Elle ne comprenait pas. J'ai dit, mais c'est normal. Dieu vous a testé, Dieu vous a éprouvé. Voilà, il y a des souffrances injustes. Il y en a plein de souffrances injustes. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Là aussi, appelés encore, ça fait partie de notre vocation. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, tiens, Jésus l'a été injurié. Qu'est-ce qu'il faisait? Il ne rendait pas d'injures, maltraitait. Et ne faisait pas de menaces, ça on le sait ça. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Mardi, on a prêché. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Vous avez été maltraité, vous avez été injurié, eh bien, occupez-vous-en. Mais si vous en occupez, vous, Dieu ne s'en occupe pas. Mais si vous êtes injurié, si vous êtes maltraité, si vous subissez une injustice et toute autre sorte de situation difficile, si vous dites par la foi devant Dieu, Seigneur, je m'en remets à toi. C'est tout. Eh bien, écoutez-moi. Ou alors, Dieu nous ment. Mais je peux vous dire que si vous vous en remettez à Dieu, et à Dieu seul, il s'en occupera. Et vous pouvez dire Alléluia. Parce que c'est une bénédiction quand on n'en parle même pas à personne. Vous savez, Je crois que plusieurs, on devrait être touché. C'est le psaume 39 qui dit, mais je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Je suis resté muet. Pourtant, c'était quelqu'un qui savait parler. C'était David. D'un des problèmes graves, mais graves qu'il a rencontré. Vous le lirez, c'est dans le psaume 39, et pourtant il souffre. Vous lirez ce psaume, il souffre. Et il dit, je reste, il prend une décision. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche. C'était le roi d'Israël. Car c'est toi qui agis. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, il a agi. Mais vous le croyez, ça? Que si on recommande son sort à l'Éternel, si on met en lui sa confiance, il agira? Mais mes frères, soyons, s'il le faut, comme des enfants devant la parole de Dieu. Le Seigneur, il dit de bénir, je veux bénir. Moi, vous savez, j'ai entendu un jour une chrétienne qui a dit, je maudis cet homme. Mais moi, j'étais, mais vous ne pouvez pas vous imaginer comment j'étais malheureux. Une chrétienne. Et l'inconverti, écoutez bien, l'inconverti lui a dit, mais tu es chrétienne, il n'y a pas écrit dans le Notre Père qu'il faut pardonner. Moi, j'étais vert de honte. J'ai rien dit. Parce que la situation faisait que il valait mieux que je ne dise rien. Mes frères et sœurs, il faut écouter la parole et il faut la mettre en pratique. Oui, il y a des choses secondaires. Oui, il y a des choses qui font qu'en vérité, Dieu nous teste. Mais ça ne joue pas sur le salut. Mais il y a des choses qui sont vitales et solennelles. La paresse, je termine avec celui-ci parce qu'il y en aurait tellement d'autres, on les fera. La paresse, pour beaucoup de gens, la paresse, mais si tu étais à ma place, moi j'ai pas le temps de faire ci, de servir Dieu. La paresse. Pour vous, la paresse, c'est grave ou c'est pas grave? C'est secondaire ou c'est vital? C'est un péché ou ça n'est pas un? Vous savez, ce que je veux dire... Parce que moi, vous savez, quand je me suis converti, j'étais catholique. Non pratiquant, mais j'étais catholique. Vous savez, il y a les 7 péchés capitaux dans l'Église catholique. Bon. Et il y a la paresse. Je trouvais ça ridicule. Parce que j'étais tout nouveau converti, j'essayais de comprendre les différences entre les confessions de foi, etc. Je me suis dit, mais c'est ridicule. C'est pas parce que la paresse, un péché capital, c'est ridicule. Mais il n'empêche, mes frères et sœurs, que ça a été quand même réfléchi. Et que celui qui enfouit son talent... Il s'entendra dire quoi? Et celui qui est inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Et la paresse, mais bien sûr, ça peut arriver une fois d'avoir un moment de cafard, ça peut arriver. Moi, je fais vraiment la différence entre quelque chose de ponctuel, aujourd'hui je suis crevé, aujourd'hui je suis fatigué, je voulais aller visiter Madame Dupont, je ne suis pas bien, j'y vais pas. Mais c'est pas la paresse, ça. Mais quand ça fait 3-4 ans qu'on n'a pas visité une personne, alors que c'est quand même la religion de visiter les veuves et les orphelins, moi je trouve que ça commence à devenir inquiétant. Si Dieu m'appelle à prêcher la parole et que pendant 2 ans je ne prêche pas, et que je vous dise, mais je suis fatigué avec mon AVC, tatatata, vous pourriez me dire au bout de 2 ans, mais ce serait peut-être bien quand même que tu fasses ce que Dieu te demande. Non, vous ne me le diriez pas. Si je ne prêchais pas pendant 2 ans, qu'est-ce que vous diriez? Monsieur de Dieu, le conseil d'administration, là, qu'est-ce que vous diriez? Je suis payé par l'Église, mais ouais, je suis fatigué. J'en ai marre. Qu'est-ce que vous diriez? Il dit, non mais Gérard, il faudrait se bouger un peu. Qu'est-ce que vous diriez? Il dit, il y a un problème. Et la paresse ne la justifiait pas. Pour régler ce problème, peut-être qu'il faut que chacun d'entre nous dise, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça, c'est peut-être le premier problème. Qu'est-ce que je dois faire dans le royaume de Dieu? Peut-être que l'autre jour, je discutais avec un frère. Il va prendre la retraite, il n'est pas d'ici, il est d'Albi. Il va prendre la retraite, c'est vraiment un ami. Et il me disait, vivement que je sois à la retraite, parce que je suis à cœur d'aller visiter des grands-pères, des grands-mères qui ne peuvent pas venir à l'église. J'ai dit, attends. Avant d'aller visiter, demande à Dieu ce qu'il veut que tu fasses. Demande-lui. En plus, c'est un frère, je suis sûr que Dieu l'appelle à prêcher. Je suis certain. C'est un garçon pieux, un garçon vraiment profond. Et je suis convaincu que Dieu l'appelle à prêcher. Même si c'est qu'une fois par mois. Mais je sais que Dieu l'appelle à prêcher. C'est pour ça que la première chose pour régler le problème de la paresse, parce que le gars qui va faire des visites, si Dieu ne lui a pas demandé, eh bien il va s'épuiser. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui nous disent « je ne sers plus Dieu ». Voilà, parce qu'il y a un manque d'éclairage. On doit faire ce que Dieu nous demande. Dans l'église, si vous êtes baptisé par immersion, vous devez tous vous dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Peut-être je vais m'occuper de mémé, d'une mémé qui, voilà, elle est toute seule. Et bien une fois par semaine, un coup de fil, une petite visite. Ah, vous avez chaud, ben j'irai vous acheter les courses. Voilà, ça prend un quart d'heure, 20 minutes. Est-ce que ça plaît au Seigneur, ça, qu'on prenne soin des veuves et des orphelins? Est-ce que ça plaît au Seigneur? Eh oui. C'est peut-être la seule chose que Dieu va vous demander. Il ne vous demandera qu'une chose. Mais faites-le. Et vous aurez de la joie de le faire. Est-ce qu'il y a de la joie à servir Dieu? Oui, bien sûr, il y a de la joie. Quand vous faites ce que Dieu vous demande. Bien sûr, si vous allez, si au nom des visites, vous allez visiter 30 grand-mères par semaine, peut-être qu'au bout d'un an, vous allez dire, j'en ai assez. Parce que vous ne faites pas ce que Dieu demande. Mais on devrait quand même demander à Dieu du bon sens. Seigneur, mais donne-moi. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Accorde-moi du bon sens. Est-ce que c'est écrit rechercher l'amour? Est-ce que c'est écrit ayez du zèle et non de la paresse? Est-ce que c'est écrit de pardonner? Est-ce que c'est écrit de mentez pas les uns aux autres? Est-ce que c'est écrit de ne pas parler grossièrement? Est-ce que c'est écrit d'user de prévenance réciproque? Est-ce que c'est écrit de ne pas discuter les opinions? On a tous la même Bible. On a tous le même Seigneur. Et on a tous un Dieu plein d'amour qui ne nous juge pas. Parce que la porte est ouverte. Parce qu'il est encore assis sur le trône de la grâce. Parce qu'il est capable de dire non, ne jetez pas la pierre. Lui qui aurait pu la jeter. Est-ce qu'il aurait pu la jeter la pierre, lui? Est-ce qu'il aurait pu dire à cette femme, eh bien, pauvre femme, c'est à cause de toi que je vais aller au calvaire? Parce que ce n'est pas parce que Dieu pardonne que ça ne lui a pas coûté quelque chose. Il pardonne, mais ça lui a coûté la mort au calvaire. Alors que nos robes soient blanches. Vous avez envie de sortir de l'église, votre robe blanche? On va fermer les yeux devant Dieu. Oui, je le répète, Jésus est encore assis sur le trône de la grâce. Bientôt la porte va être fermée. Et je peux vous dire que ça va chauffer pour les gens et les chrétiens qui ne se sont pas appliqués à mettre en pratique la parole de Dieu. Il faut le dire peut-être de cette façon un peu abrupte, mais pour que les gens soient pas pris au dépourvu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous vivez dans le mensonge, vous irez en enfer. Écoutez, il faut que ce soit clair dans votre tête. Et vous pouvez dire, je vais vivre dans la vérité. Aujourd'hui, 12 juillet, j'ai pris la décision. S'il y a des gens qui sont lâches, il y a des gens qui sont droits. Et ce moment de Sainte-Cène, c'est pas une façon de dire, tiens, dans le culte, il y a 3 chants, 2 cantiques, il y a 3 quarts d'heure de prédication, il y a les offrandes, il y a la Sainte-Cène. La Sainte-Cène, c'est un rendez-vous avec Dieu. Et si Jésus dit que votre robe soit blanche, c'est le moment. C'est le moment de dire, mais c'est vachement grave. Je vis dans le péché, mon père, c'est le diable. Eh bien, que votre père soit de nouveau Jésus-Christ. Si vous vivez dans la vérité, si vous aimez la vérité, si vous vivez dans cette grâce, votre père, ça sera à nouveau Jésus-Christ. Et c'est bizarre comment vous allez vous endormir en disant, oui, celui-là, il est heureux dans son activité. Quelques-uns ce soir se coucheront en disant, tiens, oui, je suis heureux. Eh oui, parce que quand on a Dieu pour Père, on est heureux, ça ne peut pas être autrement. Alors ce pain va passer, le vin va circuler, que ce soit une occasion de vivre en sachant que vous, vous êtes un vainqueur, à celui qui vaincra. Y a-t-il dans ce lieu, Dieu vous parle? Y a-t-il quelqu'un qui veut être dans la victoire? Y a-t-il quelqu'un qui dit oui, quand Jésus reviendra, je serai debout, dans ma robe blanche. Quand Jésus reviendra, je ferai partie de ces vierges sages. J'aurai de l'huile dans ma lampe. Je fais ce choix. C'est un choix. Les lâches, en fin de compte, ils choisissent de ne pas faire de choix. Mais les chrétiens, les vrais chrétiens, quand ils prennent le pain et le vin, je peux vous dire qu'ils font un choix. Alors je vais vous demander, mes frères et sœurs, de vous lever. Le cœur reconnaissant devant le Seigneur. Vous qui n'êtes pas encore baptisés, que ce soit une des dernières fois où vous ne preniez pas la Sainte-Cène et que vous vous convertissiez maintenant. Comme je l'ai dit à Cédric, non, je ne prierai pas que vous vous convertissiez. Convertissez-vous.